Aujourd'hui à Tam Tam, le monde dans les yeux de Lucas. Une histoire de passion, de bonheur, de joie de vivre et de défi avec en toile de fond les troubles du spectre de l'autisme. Kim San-cho et la mémoire physique comme mode d'expression en danse. Kim San-cho, française d'origine vietnamienne et qui a retrouvé ses fibres asiatiques à Montréal. Et afghan et musulman, le Québec m'a conquis, s'intégrer sans se renier? Oui, absolument. L'histoire de Zabi Enayat Zada. Bonjour, ici Raymond Desmarcoux. C'est une belle histoire coup de cœur que nous a racontée Paloma Martinez cette semaine, celle de Lucas. Lucas est un jeune garçon qui adore faire du vélo, des blagues et qui déborde d'énergie. Lucas est autiste. Doit-on dire qu'on souffre d'autisme? Qu'est-ce à dire des défis au quotidien, à ceux auxquels on fera face à l'âge adulte? Comment voit-on le monde qui nous entoure? Comment perçoit-on les regards des autres? Et comment sommes-nous perçus? Voici le monde dans les yeux de Lucas.
Moi, je m'appelle Lucas. Je suis autiste, puis j'ai 12 ans. Puis, c'est ça. Maintenant, mes passions, par exemple, j'aime les sports. Comme mon sport que j'aime le plus, c'est le soccer. J'aime aussi la musique. Je joue la guitare et du piano. Mais comme les autistes, ce ne sont pas tous égaux, moi, j'apprends mieux. J'ai découvert que j'apprends mieux autodidacte. Que c'est pas comme en faisant des cours que de piano ou de guitare que je dois apprendre. Puis finalement, j'aime les animaux. Par exemple, j'ai deux hamsters chez moi, puis un perroquet aussi. Bon, il y a... Dans les hamsters, c'est Kia et Bamba. Et le perroquet, c'est un inséparable. Il s'appelle Kik. Mais j'aime aussi les chiens, les chats, mais presque tous les animaux, en réalité.
Et quand tu vas être grand, tu vas vouloir avoir un travail en quoi?
J'ai pas encore décidé, mais ça peut être... je peux être un joueur professionnel de soccer. Je peux aussi être... parce que quand même, les joueurs professionnels jouent jusqu'à 40 ans seulement. Après, il doit y avoir un autre travail. Sinon, je pourrais être un vétérinaire ou un musicien.
Est-ce que tu voudrais avoir une ferme, par exemple? Là, tu aurais plein d'animaux.
Mais ça pourrait être, mais par exemple, les principaux animaux que j'aime, c'est les animaux de compagnie.
Ah, tu n'aimes pas les chèvres?
Ben, quand même, oui, mais c'est plus les animaux de compagnie.
Mm-hmm. Qu'on peut avoir dans une maison, dans une ville, comme Montréal.
Oui. Bon, le remplaçant, on va l'appeler Monsieur S parce que je ne peux pas donner le nom. Au début de la journée, moi, j'ai fait une erreur. C'était une erreur, mais de taper sur la table. Puis d'habitude, je faisais presque toujours ça, puis on ne me disait rien. Puis après, il disait, mais pourquoi tu le fais? Puis pour moi, il n'y avait aucune raison, alors je ne savais pas quoi répondre. Puis il continuait, allez, dis pourquoi. Puis après, il y a des élèves qui ont dit, mais il est autiste. Puis moi, j'ai dit, c'est vrai que je suis autiste. Puis après, il a dit, bon, alors si tu es autiste, la prochaine fois, tu sors de ma classe. Hein? j'ai pas aimé parce que c'était comme que quelqu'un ne respectait pas l'autisme.
Tu connaissais peut-être pas.
Mais peut-être, mais on a, il faut pas dire comme il faut trouver des preuves. Hein. Il ne faut pas comme dire tout de suite. Ah, si t'es autiste, tu dois sortir de ma classe.
Est-ce que tu es sortie de la classe?
Mais j'ai sorti, mais pas parce qu'il m'a dit, mais il a dit la prochaine fois tu sors de ma classe, mais moi je suis sortie tout de suite. Hein.
Mais qu'est-ce que tu penses que lui pense de l'autisme?
Mais peut-être il peut penser que c'est un problème. Moi, je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir.
Mm-hmm.
Moi, je dirais que l'autisme c'est un peu différent, mais. On peut quand même rire comme tout le monde et pleurer comme tout le monde. Puis, mais il y a des caractéristiques. Par exemple, l'écolalie. Bon, l'écolalie, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Pensez pas que l'écolalie, c'est une école. C'est... Parce que presque tout le monde pense ça. Mais c'est pas ça. Bon. OK. Non. C'est comme quand on répète et qu'on ne peut pas se contrôler. L'autisme, il y a aussi une autre caractéristique, c'est comprendre au pied de la lettre. Hein. Par exemple, un autiste, si quelqu'un, on lui fait une devinette, puis qu'il ne devine pas, puis là, on lui demande, est-ce que tu donnes ta langue au chat? Mais dans sa tête, il s'imagine qu'il sort sa langue et qu'il y a un chat qui va venir. Hein.
Donc, oui. Pour toi, c'est important que les gens comprennent c'est quoi l'autisme?
Oui, pour que tout le monde se respecte. Hein. Même si on est autiste, on peut faire tout. C'est pas qu'on doit manquer des choses à cause qu'on est autiste.
Monde dans les yeux de Lucas nous a été proposé par Paloma Martinez. Le mois de mai, c'est le mois du patrimoine asiatique et Montréal, comme ailleurs au Canada, vibre aux différents rythmes de cet immense continent et ce, ici, dans le cadre du festival Accès Asie. Toute petite, Kim San-cho faisait de la danse, plus particulièrement du ballet, mais elle ne savait pas encore que plus tard, ce type d'expression deviendrait son leitmotiv. Née en France, de parents d'origine vietnamienne, elle a étudié en finance à l'université. Puis, en 2012, elle met le cap sur Montréal où elle décide de s'installer, de parfaire une formation en danse contemporaine. Marie Jobin a demandé à Kim San-cho, chorégraphe et artiste en danse contemporaine, de parler de son parcours et de sa démarche de création.
Mais vraiment avec un parcours très amateur. Puis, comme j'ai poursuivi ma formation en finance, j'ai travaillé aussi dans le secteur pendant quelques années. Puis, dans le fond, c'est pas tant que ça correspondait pas vraiment, mais j'ai eu envie de prendre comme un break après quelques années de travail. Et en fait, je voulais voir ce que ça allait donner si je faisais de la danse pendant une période de peut-être une à deux années. Puis, en fait, je suis restée à Montréal aussi. Et en fait, quand j'habitais en France, je faisais surtout du ballet, puis comme la culture du ballet est quand même très ancrée en France. Et du coup, j'avais vraiment cette esthétique comme très formelle et c'était vraiment très développé pour moi. Alors que quand je suis arrivée ici, j'ai pu travailler plutôt en danse contemporaine. Et puis, j'ai eu beaucoup d'opportunités de travailler avec des artistes qui sont vraiment très intéressants et qui développent beaucoup, notamment en danse contemporaine, du mouvement très intérieur. Et finalement, j'ai pu me développer dans cette voie. Donc, ça a vraiment changé mon approche artistique. Je pense que c'est lié aussi avec mon expérience à Montréal. Quand j'habitais en France, j'ai grandi dans un milieu où mes parents, donc, qui avaient immigré du Vietnam, leur objectif était vraiment que leurs enfants puissent s'intégrer à la société française. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'enfants de ma génération dans ce cas-là. Alors qu'à Montréal, la culture est davantage d'avoir une fierté de sa communauté, de l'envisager comme une richesse. C'est ça, en vivant à Montréal, j'ai eu envie à un moment donné de retourner au Vietnam. Et puis petit à petit, en fait, j'ai tissé aussi des liens artistiques avec le Vietnam et je m'intéresse beaucoup à l'idée que quand je suis au Vietnam, en fait, vu que je ne parle pas la langue, je suis obligée d'y aller un peu avec mon instinct puis mon ressenti, mais je ne suis pas capable de communiquer avec les personnes que je rencontre. Et ça, pour moi, c'est vraiment très riche, en plus d'avoir évidemment cette expérience de retourner dans le pays d'origine, dans mon pays d'origine. Le Vietnam, pas tant que je ressens, c'est plus que j'essaye de véhiculer, comme j'essaie vraiment de m'imprégner du souvenir d'une part de mes ancêtres, notamment des femmes de ma famille, et d'autre part de mes souvenirs de voyage du Vietnam, des personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a une chaleur, une humidité, une lumière qui est très vive dans ma mémoire. Et ce que ça me fait ressentir, c'est vraiment de comment est-ce que je peux transmettre finalement un bagage qui est véhiculé à travers mon corps. Moi, je crois profondément que le corps est capable de collecter et aussi de véhiculer un passé et un contexte, etc. Et je pense que c'est un processus naturel. C'est que quand je travaille en danse pour ces pièces, c'est comment est-ce que je peux rendre ce processus plus visible.
Kim Sancho est en performance le 12 mai prochain au festival Accès Asie 2017 dans Les préoccupations et les attentes. C'est un dossier signé Maryse Jobin. Il se nomme Zabi Inayat Zada et avec sa complice, compagne et amoureuse, Caroline Janard, il nous propose Afghans et musulmans, le Québec m'a conquis, qui vient de paraître aux éditions Trois Pistoles. Ce livre lève le voile sur les obstacles de l'intégration de tous ces réfugiés, déchirés entre un nouveau monde et celui qu'ils ont dû quitter pour diverses raisons, guerre, famine, despotisme, et j'en passe, et qui arrivent avec bien peu, sauf une culture, souvent millénaire, une foi, une religion. Afghans et musulmans, le Québec m'a conquis, offre une piste de réflexion pour que les pures laines arrivent à comprendre les déchirements des réfugiés. De plus, dans le contexte du couple mixte que forment Caroline et Zabi, on voit le portrait d'une vie à deux avec certaines embûches, soit, mais aussi avec tellement de richesses intérieures. J'ai eu le plaisir et le bonheur de les recevoir cette semaine. Voici quelques moments de notre conversation. Zabi, racontez-moi, c'était en 83 et c'était, bon, l'Afghanistan avec l'invasion des Soviétiques à l'époque. Kaboul était une ville pleine de vie et là, tout changeait au complet.
Oui. En fait, en 1978, il y a eu un coup d'État communiste. Par la suite, bon, il y a eu un groupe des musulmans rigoristes qui se sont soulevés contre le gouvernement communiste. Et ces gens-là, plus tard, ont été supportés par les Américains.
Et ça a créé les talibans par la suite,
c'est ça? Et ça a créé les talibans. Et à un moment donné, le gouvernement afghan était plus capable de se défendre contre les djihadistes qui partaient d'un peu partout vers l'Afghanistan pour se battre contre les communistes. On était pendant la guerre froide. Les États-Unis venaient de perdre une guerre, la guerre de Vietnam. Et là, avec la montée de ce groupe extrémiste, si on peut dire, ils ont vu une mine d'or pour se venger un petit peu contre le monde communiste. Donc, ils ont commencé à financer ces groupes-là. En 1979, le gouvernement afghan était plus capable de se défendre contre les djihadistes qui partaient de l'Europe, de pays arabes, de l'Afrique du Nord pour se battre en Afghanistan. Ils arrivaient au Pakistan. Ils étaient entraînés là-bas au Pakistan, armés par différents pays, l'Arabie saoudite, les États-Unis. Ils rentraient en Afghanistan. Et à ce moment-là, le gouvernement afghan était plus capable de se défendre contre ces gens-là. Donc, ils ont fait appel à leurs amis soviétiques. Le nord d'Afghanistan, on avait une frontière avec l'Union soviétique. Dans ces années-là, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkmanistan n'existaient pas. Ça faisait partie de l'Union soviétique.
En fait, c'était des républiques intégrées dans l'URSS.
Oui, c'est ça. Jusqu'à là, l'Afghanistan jouait un rôle d'un pays tampon entre le bloc soviétique dans le nord et le sud, l'ancienne colonie anglaise.
L'ancienne Les Indes.
Les Indes, qui est devenue Pakistan plus tard.
Voilà.
Donc l'Afghanistan jouait le rôle d'un pays tampon. Regardez loin ces deux blocs-là, le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. Mais là, avec le coup d'État de 1978, l'Afghanistan devenait un pays communiste.
Et au niveau famille, vous avez eu à quitter, vous aviez une situation quand même, une bonne qualité de vie à Kaboul, et vous avez eu à sortir d'Afghanistan, d'aller au Pakistan, mais par la suite aussi le Canada.
Oui, initialement, bon, nous, on ne voulait pas quitter l'Afghanistan. Ben oui. J'avais jamais pensé quitter l'Afghanistan. La ville de Kaboul était une petite ville de 800 000, 900 000 habitants, une belle ville, tranquille.
Quoi, 4 millions aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est rendu presque 5 millions, je pense. Et là, avec la guerre, avec l'invasion soviétique, on était obligé de fuir le pays. Une fois, on a quitté la première fois, on avait nos passeports et tout, on est parti vers l'Inde. Quelques temps plus tard, on est retourné en Afghanistan, on s'ennuyait et tout. Mais là, ils ont confisqué nos passeports à l'aéroport de Kaboul, les Soviétiques. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait plus quitter le pays. L'Afghanistan était changé, était devenu comme une grande prison. On n'avait plus le droit de quitter le pays. Et de plus en plus, le gouvernement afghan avait besoin de jeunes hommes pour qu'il aille se battre contre...
De la chair à canon, et c'est ce que vous étiez à 16, 17 ans
c'est
à peu
ça,
près.
Mon grand frère surtout. Et on avait toujours nos cartes d'identité avec nous quand on sortait de la maison pour aller à l'école. Il fallait avoir une carte d'identité pour prouver qu'on était inscrit dans une école. Les jeunes qui ne fréquentaient pas l'école, ils étaient forcés. Il y avait des camions avec des soldats pour vérifier s'ils n'avaient pas leur carte. Ils l'embarquaient dans les camions, ils l'enrôlaient dans l'armée. Une journée, je me rappelle, j'étais en taxi avec ma mère pour faire des courses. Et là, à un moment donné, on a vu des soldats qui embarquaient les jeunes hommes de mon âge dans un camion pour les enrôler dans l'armée. Et quand ma mère a vu ça, elle a eu peur. Et le chauffeur de taxi, il a dit à ma mère, « Mais madame, aussitôt que les pieds de ces jeunes-là sont assez larges pour rentrer dans les bottes de soldats, mais on les embarque dans les camions et on les amène dans l'armée. Et ma mère, à partir de ce moment-là, elle était stressée, anxieuse, et à chaque fois qu'on quittait la maison pour aller à l'école, elle avait peur. Elle ne savait pas si on rentrait après-midi ou le soir à la maison.
Zabi, on va faire un grand saut. Vous débarquez au Canada. Votre grand frère sait à peine dire « refugee » en anglais.
Oui.
Et c'est là que commence cette nouvelle vie. Mais là, non seulement vous changez de continent, vous changez presque de planète au niveau de la culture.
Oui, oui. On arrivait dans un autre monde. On ne comprenait pas la langue. Les choses qui étaient bien vues là-bas en Afghanistan étaient mal vues ici. Les
et inversement, c'est
inversement.
Ça.
Et pendant de nombreuses années, j'étais perdu. J'étais perdu avec les codes. En Afghanistan, par exemple, l'autobus public, quand on prenait l'autobus à Kaboul, c'était divisé en deux, séparé en deux. La partie en avant, c'était réservé pour les femmes, les parties en arrière, pour les hommes. Si un couple voyageait en même temps, la femme montait par la porte en avant et le monsieur par la,
porte en arrière.
Et même au milieu, dans beaucoup de bus, il y avait un rideau qui séparait les gens. Donc, il n'y avait aucun contact entre les hommes et les femmes à l'extérieur de la maison.
Et je vous imagine dans un bus à Montréal en plein été, avec quelqu'un, une dame qui s'assoit à côté de vous en short, par exemple, ça devait être tout un choc.
Oui, oui, en fait. Quand je suis arrivé à Montréal, c'était au mois de décembre, il faisait froid, les femmes étaient habillées avec des gros manteaux, des tuques, des bottes, on ne voyait pas grand-chose. Et là, avec le beau temps arrivé, il y a des shorts, des mini-jupes, des camisoles et tout. Et la première fois, dans l'autobus, il y a une jeune fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. Elle portait des shorts et là, nos cuisses se touchaient, nos bras aussi. Pour moi, c'était quelque chose. J'avais 17 ans.
Et musulman, et pratiquant.
Musulman.
Et tout ça, c'est tout un choc.
Tout un choc. Elle n'était pas ma sœur, elle n'était pas ma cousine,
donc,
ni ma mère.
Donc, logiquement, vous ne devriez pas être en contact avec cette personne.
En plus, elle n'était pas musulmane. Donc, automatiquement, j'allais en enfer.
J'entends sourire derrière, Karine.
Mais par contre, j'aimais bien ça.
Oui,
d'un côté, j'aimais bien ça.
Ça, je vous comprends.
Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je veux rester à Montréal. C'est ma ville, j'aime ça, Montréal.
Parlez-moi de votre rencontre, Caroline.
Oh, ma rencontre. Écoutez, Zabi était mon voisin depuis déjà un an et demi, mais je ne l'avais jamais vu. Et j'ai eu une période assez difficile. J'avais fait un épuisement professionnel. Puis aussi, j'avais été très malheureuse en amour pendant toute ma vie, littéralement.
Et, vous avez une fille d'une vingtaine d'années?
Oui, oui, de 24 ans. Et en fait, j'ai émergé de cette période difficile. Et c'est à ce moment-là que, par hasard, j'ai vu passer cet homme. Et je me rappelle avoir... J'étais avec ma fille, puis lui dire, « Hey, mais regarde ce beau gars-là, mais d'où il sort? » Et j'étais vraiment surprise de le voir passer dans le coin pour découvrir que c'était mon voisin. Et il y a une phrase soufie qui dit, « Les hasards de l'homme sont la précision de Dieu. »
Alors... Oh, que c'est beau, ça!
En fait, Zabi incarne ça à la perfection parce que j'ai donc cherché quelqu'un avec qui je serais heureuse et jamais j'aurais imaginé que ce serait quelqu'un originaire de Kaboul. Ça passait même pas par ma tête. Et finalement, ben, grâce à cette relation, j'ai trouvé la personne avec qui je pouvais enfin vivre une relation heureuse.
Et vous êtes ensemble depuis?
Depuis 8 ans. Et on
s'est vous êtes un couple mixte.
Oui.
Il y a des défis là-dedans. D'une part avec la famille québécoise et d'autre part avec la famille afghane, pas la famille québécoise.
Ben, j'ai la chance d'être dans une famille très ouverte. C'est sûr qu'au départ, quand j'en ai parlé à un oncle ou une tante, il pouvait y avoir une certaine gêne ou des silences qui en disaient long. Mais en fait, dès qu'ils l'ont rencontré, tout le monde a été sous le charme de Zabi. Zabi a vraiment une élégance intérieure très digne, qui est absolument charmante et qui ne se dément pas.
Il faut dire aussi que la culture afghane, les cultures afghanes, devrais-je dire, sont des cultures millénaires avec des années, des milliers d'années de philosophie, de façon de penser, de politesse, et ainsi de suite. Du côté de la famille, est-ce que le père aurait dit quelque chose du genre « j'irai en enfer, moi et les sept générations qui me précèdent » ou quelque chose du genre?
Oui. Aïe! Et même des fois... au téléphone pendant 30 minutes. Il me faisait toutes sortes de discours. Puis moi, dans ces années-là, je ne prenais pas ma place. Donc, je laissais parler. Et par la suite, pendant une semaine, j'étais mal. Alors, ça lui a pris quelques temps pour accepter. Et aujourd'hui, il aime sa belle-fille.
Maintenant, à l'interne de la personne, est-ce que vous êtes pratiquante, Caroline, ou vous êtes ou non pratiquante?
Pratiquante catholique, non. Je suis non pratiquante.
Est-ce que vous êtes encore pratiquant musulman?
Non, j'ai ma pratique spirituelle, voilà. Si je peux dire, mais c'est à l'intérieur.
À l'intérieur de vous.
J'ai pas mon tapis de prière que arriver au milieu de travail et apporter mon tapis de prière pour faire mes prières. C'est quelque chose à l'intérieur pour moi. C'est chez moi.
Quel était le déclencheur de l'écriture du livre? Est-ce que c'est vous, ça, Caroline?
Oui, en fait, quand j'ai rencontré Zabi puis que j'ai commencé à comprendre son histoire, je me dis, mais il faut que tu racontes ça. Il faut que les Québécois comprennent ce que tu as vécu, tous les enjeux. Pour moi, c'était vraiment une traversée du désert très dure. L'acclimatation à ces nouveaux codes, à ces nouvelles valeurs québécoises, puis l'écartèlement, en fait, que Zabi a vécu pendant longtemps avec ces deux mondes, essayer de jongler avec ces deux mondes plutôt que de voir que c'est deux richesses, de voir qu'il y avait les clés à deux trésors. Pour lui, c'était deux patates chaudes. Alors, je trouvais que c'était important qu'il le raconte. Et je me rappelle, au début, j'y avais dit, mais il faut que t'écrives. Puis je lui remettais ça, puis Zabi, ben, écrire en français, c'était, bon, je sais pas trop. En fait, on doit pas parler de soi tellement, dans la culture. C'était
notre
difficile
famille,
pour lui.
De nos émotions, comment je me sens, on parle pas. Donc, c'est mal vu. Alors, mettre sur papier, dans un livre, prendre la parole devant le public et parler de ces choses-là, pour moi, c'était difficile.
Donc, ça a été une longue entrevue avec des questions qui étaient répétées et répétées jusqu'à temps que vous aviez satisfaction, c'est ça?
Oui, en fait, je l'ai harcelé avec une petite enregistreuse à chaque repas pendant...
Chérie, je t'aime, viens ici, toi.
Oui. À chaque repas, c'était au petit-déj, au souper.
Même en dans fait, les restaurants.
Oui, j'étais toujours prête parce que je savais que souvent les perles sortaient au moment où on s'y attend pas, alors j'avais mon enregistreuse.
Tox, c'est ça.
Et du coup, j'ai récolté pendant quelques mois l'histoire de Zabi, puis je l'ai aidé à accéder à ses souvenirs. Et à ce moment-là, je me suis mise à écrire au jeu. Je l'ai fait parler parce que c'était difficile vraiment pour Zabi d'accéder aux mots. Il vient vraiment, si on lit le livre, on découvre qu'il vient d'un monde de silence où il ne faut surtout pas prendre la parole. Donc, il fallait vraiment l'aider. Puis je pense que ça, non seulement ça t'a aidé à prendre la parole, mais ça t'a aidé à réconcilier justement les deux mondes.
Et cette conquête que le Québec a faite de vous, est-ce qu'elle a ces yeux-là?
Oui. Oui. Mais aussi la culture québécoise, l'ouverture des Québécois, la langue française, les paysages, l'ensemble de ces choses-là.
Je vous rappelle, Afghan et musulman, le Québec m'a conquis vient de paraître aux éditions Trois Pistoles sous la plume de Zabi Enayat Zada et de Caroline Janard. Et c'est là-dessus que s'achève notre tam-tam aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Ici Raymond Desmarteaux, au revoir. À la prochaine.